Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur la radio mondiale. Et nous parlerons football évidemment aujourd'hui avec ces scénarios fous et du suspense hier soir, tant en Coupe du Roi qu'en Coupe de France. À Madrid, dans leur stade, les Merengues ont souffert pour se hisser en finale car leurs adversaires de la Real Sociedad rendaient but pour but. Mais à la fin, c'est le Real qui gagne, sans la manière. Cependant, alors pourquoi ce jeu toujours aussi laborieux ? Dans le nord de la France, les Maritimes ont tenu la dragée haute au PSG. Mais l'épopée de Dunkerque s'est arrêtée en demi-finale. Les Parisiens ont réagi à temps, se qualifiant pour leur 21e finale de Coupe de France. Logique, même si une décision d'arbitrage entretient aujourd'hui la déception des joueurs de deuxième division qui ont voulu y croire. Un deuxième club de Paris en Ligue 1, le Paris FC, est sur le podium de la Ligue 2 en bonne place pour être promu directement ou indirectement. Propriété de la famille Arnaud en tandem avec Red Bull et donc Jürgen Klopp, le club pourrait être, pourrait peut-être un jour rivaliser avec le concurrent qui est déjà dans les murs, le Paris Saint-Germain. Déjà objectif impératif donc, la remontée. Ça serait pas mal, un derby parisien, Dominique Sévrac.
J'adorerais, Annie, bonjour.
Ça ferait moins voyager peut-être.
Ah, ça serait sympa.
Ça va, Dominique ?
Ça va bien, et vous ?
Ouais. Non, je vous vois frigorifié, là.
Pas du tout.
Non ? Bon, les microbes l'ont attaqué, mais Dominique est toujours bon.
Je suis résistant, vaillant.
Ouais. Bonjour, Nabil Djellit.
Salut, Annie, salut à tous.
Et puis, bonjour, Étienne Moati.
Bonjour, Annie, bonjour à tous.
Avant de lancer l'émission, je voulais vous demander votre avis, messieurs, sur cette liste des 12 possibles vainqueurs du prix Marc-Vivien Fauet version 2025. Dominique ?
C'est la première fois que j'arrive pas à faire un trio.
Ah bon ?
Depuis que je vote, ça doit faire une quinzaine d'années.
Oui,
j'en ai 5 et j'arrive pas à les détacher.
Ah,
je suis très embêté.
Ouais, Christophe Jousset n'en admet que 3. Je vous le signale. Hein.
Je sais, il y en a un, je suis sûr de moi. Ah. Et puis après, les 4 autres, ils peuvent très bien être 2e et 3e.
Ouais, Dominique va faire comme d'habitude, il va copier sur moi. Voilà, c'est pas grave, hein, tu veux, je te le donnerai, mais mon trio, mon Dominique.
Vous en avez un donc ?
Je n'ai pas encore fait ce trio, mais franchement, il y a quand même un grand favori, en tout cas de mon point de vue.
Ah oui.
C'est
qui ? On ne va rien dire.
C'est qui depuis hier dans les... Vous savez, on l'a traité dans l'émission et tout le monde avait le même favori. C'était d'ailleurs pas très drôle, mais ça met peut-être du suspense.
Achraf.
J'ai l'impression quand même que Hakimi... Ouais.
Donc pour l'instant, vous êtes tous sur la même longueur d'onde. David,
David, mais c'est vrai que des fois, quand j'entends David, ça résonne de la même manière. J'ai grandi avec un David, donc des fois, quand il disait David, j'ai l'impression qu'il disait Nabil.
Nabil.
Non, mais moi, je trouve que c'est une très belle liste déjà pour une raison. Il y a deux Algériens, Imad Abdelli d'Angers et Amine Gouiri de l'Olympique de Marseille. Donc ça,
malheureusement, Ben Taleb s'est blessé précocement.
Voilà, Non, mais ce qui est bien dans la liste, c'est que tous les postes sont représentés. Peut-être que pour une fois, c'est pas un joueur offensif qui va gagner, mais on verra.
Qui sait ?
Voilà,
donc ça dépend si on classe Hakimi en joueur offensif ou défensif, parce que franchement, il a un peu les deux. Donc,
C'est vrai, mais bon, il est quand même répertorié comme latéral. Donc, son métier premier, c'est quand même de défendre, même s'il est dans une équipe dominante. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait un gardien de but aussi avec le champion d'Afrique, Yaya Fofana. Donc, je trouve que c'est une très très belle liste. Et pour moi, c'est très simple. J'en ai déjà deux. C'est plutôt le troisième que j'arrive pas à déterminer, le troisième sur le podium. Mais je le dirai pas, puisque on doit rester un minimum discret quand même.
Bon, mais on accepte. Ceux qui voient au moins un favori
moi,
dans la liste,
favoris,
même si c'est pas le
vôtre. Les deux favoris, parce qu'il y en a un qui n'a pas été cité pour aller un peu au bout de l'idée. Je pense qu'il y en a un qui peut éventuellement contester Hakimi, qui est le grand favori, et là je suis d'accord. C'est l'attaquant ivoirien Guessant qui fait une très belle saison avec Nice. Il reste encore quelques semaines avant la clôture des votes. Rien ne vous dit que sur les derniers rounds, si Guessant claque des triplés, il ne puisse pas inverser.
Exactement.
Si les gens votent, c'est juste mon pronostic à moi.
Si les gens votent après les quarts de finale de Ligue des Champions et que Paris est éliminé, je pense que Hakimi va perdre
De toute façon, le résultat aura lieu le 12 mai. Donc d'ici là, vous avez
c'est
le temps
juste
de voter.
Des tendances. Encore peut-être que d'autres ne pensent pas pareil.
Quelques journées de championnat. Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission avec David Finzel et Laurent Salerno. Et fidèlement, là, derrière la vitre, Radio Foot, c'est parti.
Sevilla.
Oh, cette fin de rencontre est complètement folle.
Sendai-Seisen et le Bernabéu.
Rennes qui reprend l'avantage et qui vient arracher la prolongation, peut-être. On ne sait plus quoi dire.
Quelle folie.
Le grand défenseur, c'est lui qui permet au Real d'égaliser, mais de peut-être, peut-être se qualifier pour la finale de la Coupe d'Espagne. Oh, que c'est dur, 4 partout. Match nul 4 partout dans ce match retour face à la Real Sociedad.
Mais oui, du suspense, des buts, mais à la fin, c'est donc le Real Madrid qui gagne. Les voilà qualifiés pour disputer la 41e finale de Coupe du Roi de l'histoire de ce club espagnol. Ce qui a fait d'ailleurs vibrer en tribune, je pense que vous avez vu les images, un tennisman retraité, madridiste, hein, il l'a toujours clamé.
Il est interbattu.
Effectivement, un certain Rafael Nadal qui était là et qui a exulté au moment du dernier but. Mais que ce fut dur donc pour les hommes de Carlo Ancelotti. Lui en a presque avalé son légendaire chewing-gum, Mister Carlo, car les adversaires de la Real Sociedad ne se sont pas laissés impressionner. Ils avaient même ouvert le score et puis ils ont répondu à chaque but merengue jusqu'aux prolongations, jusqu'au moment où un certain Antonio Rudiger a égalisé 4-4. C'était le but de la victoire car le Real avait gagné 1-0 à l'aller. Le premier buteur des Madrilènes de cette folle rencontre, c'est le jeune Brésilien Hendrick. Il a 18 ans et il savourait la qualification.
Quand nous vivons ça,
célébrer cette victoire avec nos supporters et tout le banc madrilène, ça a une saveur particulière. Je suis ravi qu'on aille en finale. On va travailler dur pour soulever la coupe. J'ai été recruté pour marquer, pour aider la défense et pour remporter des titres. Et pour l'instant, ça se passe bien. Il faut que je profite de mon temps de jeu pour m'améliorer. C'est un club exigeant avec les meilleurs attaquants du monde. Mais quand j'en ai l'occasion, je dois faire de mon mieux pour l'équipe.
Quand j'ai l'opportunité, je dois faire de mon équipe.
Oui, il a raison hein, que ça a été de la folie, de l'ambiance dans ce stade pour les encourager. Parce qu'à la fin à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, je crois qu'on était à 80e minute, eh bien le Real était toujours mené 3-1. Finalement, Étienne Moati, qu'est-ce qui a fait craquer la Real Sociedad qui menait 3-1 à 10 minutes de la fin ?
La force de l'habitude.
La force de l'arbitrage, non, pardon.
Non, plus de l'habitude.
Nabil, vous n'allez pas vous transformer.
C'est-à-dire que cette équipe...
Mais si, ils en ont parlé, bien
bah oui,
sûr.
Ils en ont parlé, la Real Sociedad.
Oui, mais on dit toujours ça. Quand on perd contre le Real, en général, on dit toujours...
On a un argument tout prêt.
Et voilà. C'est parfois le cas qu'il y a eu une erreur d'arbitrage en faveur du Real Madrid. Mais je pense qu'au-delà de ça, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Mais cette équipe du Real, ce club surtout, parce que quelle que soit l'équipe qui la compose, il y a toujours quand même une force mentale capable d'aller rechercher, même quand on joue mal, même quand on a une défense qui prend 4 buts par match, on finit quand même d'arriver à réussir à arracher une qualification, même quand on est une équipe moyenne, parce qu'en dépit des stars qu'il y a cette saison au Real Madrid, c'est une équipe assez moyenne, vous êtes quand même encore en course en Ligue des Champions, pour être champion d'Espagne, pour aller gagner la Coupe du Roi, j'ai tendance à dire un petit peu comme d'habitude, c'est ça, et puis une force mentale quand même chez certains joueurs, notamment Rudiger, mais aussi Vinicius qui va faire un débordement absolument splendide et pour aller donner le but à Bellingham. Donc c'est rien de neuf sous le soleil, mais c'est toujours marrant et toujours beau à voir.
Le soleil madridiste. Nabil, pourtant, cette équipe de la Real Sociedad, elle avait des arguments, et notamment, elle a l'international espagnol, champion de l'Euro, exactement, Yarzabal qui était là.
Très beau joueur.
Et il y a eu l'autre petit aussi qui a mené la vie dure.
Kubo,
Camavinga, exactement.
Kubo, le japonais.
Le japonais.
Le Messi japonais. C'est ainsi qu'il est surnommé.
En plus.
Nous en ballons pas quand même. Mais...
non, mais c'est un super joueur. Tu sais qu'il avait été identifié par des grands clubs et d'ailleurs je crois qu'il a un moment appartenu au Real, il a été prêté à Majorque en fait et là il est à la Real Sociedad. Excusez-moi d'apporter un peu d'expertise,
mais c'est vrai qu'ils ont quand même justement apporté un peu de résistance.
Ça a apporté plus un surnom que d'expertise.
Ils sont en Liga, ils sont jamais très loin non plus et tout. La Real Sociedad, c'est le club aussi, un de ceux qui s'illustrent dans le championnat espagnol.
Vous avez raison, c'est un club qui a pris un peu le relais de ceux qu'on pouvait appeler second couteau à très haut niveau. à un moment avec Valence, Séville, qui ont été très longtemps quatrième et cinquième équipe du championnat espagnol derrière les trois gros. Et la Real Sociedad, c'est un club qui
assez régulier,
mais qui se distingue un peu comme en Italie l'Atalanta Bergame, déjà par un logiciel de jeu qui n'est pas le même, mais en tout cas un logiciel de jeu qui a été mis en place, mais par une équipe qui recrute bien et intelligemment depuis pas mal de saisons. Souvent, il y a même des top joueurs aujourd'hui qui sont dans des gros clubs européens qui sont passés par la Real Sociedad. Je pense notamment à Isaac, qui est aujourd'hui du côté de Newcastle, qui fait des choses incroyables. Kubo, c'est un joueur qu'ils avaient intelligemment identifié. On a un international malien également, mais qui n'était pas présent sur le terrain. Amari Traoré, qui arrivait du côté... qui s'est blessé malheureusement, mais qui arrivait libre de Rennes, comme un super joueur, qui était un super joueur de Ligue 1. C'est une équipe qui joue bien et qui est aujourd'hui considérée comme premier tiers du championnat espagnol. On les a même récemment vus, même s'ils ont été surclassés en Ligue des Champions, ils ont participé à la Ligue des Champions, mais on les avait vus en huitième de finale face au Paris Saint-Germain. Ils avaient eu quand même une batterie d'absents à cette époque-là, mais sur une mi-temps ou deux, notamment au Parc, ils avaient mis en difficulté le Paris Saint-Germain, notamment avec un joueur qui est aujourd'hui parti du côté d'Arsenal, Merino. Donc c'est une bonne équipe espagnole, tout simplement, elle a joué crânement sa chance.
Ils avaient perdu chez eux à l'aller, et là au retour, ils avaient décidé d'en découdre.
C'est eux qui marquent les premiers d'ailleurs.
Alors c'est eux qui marquent les premiers, effectivement. Et Dominique, la défense hier, elle a à la fois pêché, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs de la part des défenseurs du Real Madrid. Alaba, il revient de blessure, il est sans doute pas à son maximum, mais lui, même... il est sorti d'ailleurs. Et Lucas Vázquez, mais on a eu Tchouaméni qui a marqué. Il y a eu en même temps le bon et le moins bon avec cette défense. C'est ce que disait d'ailleurs un peu Étienne, c'est-à-dire ils encaissent 4 buts, bon, puis en même temps, on s'arrange pour marquer 4.
Le Real Madrid, à Nice, c'est la plus mauvaise équipe sur 90 minutes ou 120 minutes au monde, mais c'est la meilleure du monde sur 5 ou 10 minutes. Et donc, vous ne savez, comme ça peut être l'équipe la plus géniale sur 5 ou 10 minutes, vous ne savez pas si elle ne va pas remporter la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe du Roi, puisqu'il suffit d'être bon pendant 10 minutes avec le talent qu'ils ont. Mbappé, bon, il était remplaçant hier, il est rentré, il a d'ailleurs fait une très mauvaise rentrée. Hendrick, Vinicius, Rodrigo, notamment, ou Bellingham, ces gens-là, sur 10 minutes, ils peuvent mettre 3 buts, 4 buts, 5 buts, 6 buts. C'est complètement fou. Donc,
mais ce qui est étonnant quand même.
Donc, même si Alaba fait n'importe quoi, même si Asensio est impliqué sur un but, même si Looney ne sort pas sur un coup franc, parce qu'il y en a une aussi pour lui. Ils peuvent faire beaucoup d'erreurs, et c'est pas grave. Ils ont, de toute façon, sur des moments irrationnels qui durent entre 1 et 15 minutes, où ils peuvent gagner un match. Ça suffit. La plus mauvaise équipe sur 90 minutes.
Tout en étant toujours
en course.
La plus
mauvaise équipe sur 120.
Voilà, toujours en course. On les a vus en Ligue des Champions. Ils s'en sortent toujours.
Oui.
Mais pourquoi ce Real, avec l'effectif qu'il a cette année, a un jeu aussi laborieux? Pourquoi est-ce que Carlo Ancelotti ne trouve pas la clé?
Est-ce que Carlo Ancelotti est l'entraîneur, donc c'est l'entraîneur qui apporte des titres? Est-ce que c'est un entraîneur qui apporte un style de jeu particulier à ses équipes? Non. Moi, je ne sais pas dire exactement quel est le style du Real dans Carlo Ancelotti. Ça ne les empêche pas. Pas foncièrement, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de régularité, on va dire, et ils prenaient quand même moins de buts. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette saison, le Real a eu aussi un petit peu de suffisance. C'est-à-dire qu'ils ont eu des blessés importants, Carvajal, ils ont eu Alaba qui a été blessé quasiment
Militao.
Toute la saison, qui revient, Militao qui n'est pas là. Ils ont recruté à aucun poste, ni arrière-droit, ni défenseur central.
Et Carlo Ancelotti bricole.
Voilà, donc forcément, ils prennent beaucoup plus de buts. Mais sinon, en termes de jeu, ça a quand même toujours une équipe et un club dans son histoire finalement qui brille par ses stars offensives, mais qui n'a pas toujours un grand fond de jeu.
C'est plutôt un adepte des transitions rapides, s'il faut trouver un style.
Bah là, oui, il n'y a pas le choix.
Mais bon, parce qu'en plus, là, il a des flèches. Donc, mais le problème, c'est qu'il a les flèches, mais il n'a pas l'arc. L'arc, avant, c'était Toni Kroos. C'est-à-dire que celui qui est distribué...
Il y a Modric.
Mais Modric, il a 39 ans. Il vient de faire deux matchs de Ligue des Nations. Il avait joué avant un peu en Ligue des Champions. Il avait joué un peu en championnat. Mais à un moment, on ne peut pas lui demander à 39 ans d'être le même génie qu'il a été, je sais pas, en 2018 quand il est ballon d'or.
Il l'est, mais sur moins de temps.
Donc il l'est, mais voilà. Un génie, il le sera toute sa vie. Mais c'est compliqué de ne pas remplacer Kroos, quoi. Donc là, je vois déjà qu'il y a des noms de... Je vois que Bruno Fernandes de Manchester United est pisté par le Real.
Wirtz.
Voilà, il cherche un peu des joueurs qui donnent des ballons. Parce que les quatre de devant, c'est... Eux, ils ont des étincelles, ils ont des inspirations.
Mais il faut qu'ils aient le ballon.
C'est pas eux qui.
Bien sûr,
mais le miracle, vous l'avez dit, en fait, c'est de transformer une équation insoluble en ayant des résultats. Parce que le propre d'une équation insoluble, c'est d'arriver à ne pas avoir de résultats.
Oui.
Un, il a une impasse quand même tactique, puisqu'il a, face aux grosses équipes, il a un déséquilibre, parce que Mbappé s'est ajouté à trois autres. Donc ça crée quand même un déséquilibre. Et le déséquilibre, il est encore plus prononcé puisque derrière, c'est un chantier.
Avec... Oui, il a choisi Nabil parce qu'au départ, il avait sorti Rodrigo. Quand Mbappé est arrivé, il avait choisi de sortir Rodrigo.
Non, mais il n'a pas choisi les blessures des mecs derrière, par
non,
contre.
Mais il a...
C'est encore plus compliqué.
Tu parles de déséquilibre d'équipe. Il a... les, quatre, oui. les quatre génies, là, les quatre fantastiques, il a... c'est lui qui a décidé de les installer.
Oui, mais ça ne marchera pas.
Parce qu'il avait décidé de ne pas mettre Rodrigo au départ.
Oui, mais c'est encore plus difficile dans le sens où tu sais que c'est difficile et en plus, tu perds des gars derrière. Et quand tu joues des équipes qui sont équilibrées, qui sont fortes offensivement, c'est en fait le miracle permanent, on va savoir jusqu'où il va aller, c'est l'histoire d'un parcours. Si tu tombes contre le Barça, qu'ils ont rencontré à deux reprises, ils ont ramassé. Hein.
Bah, ça pourrait être ça, la finale.
Ils ont ramassé. Ouais. Donc, si par exemple.
Et même contre Arsenal, on va voir déjà.
On va voir. Si tu as un parcours, alors ils n'existent plus de cette manière-là, mais si tu t'étais retrouvé face au City dominant de Guardiola, c'est-à-dire pas celui, pas l'ambulance de cette saison, il peut faire ce qu'il veut, Guardiola, avec ses flèches. Angel, il en prend quatre, quoi. Ça dépend aussi du niveau d'adversité.
Ouais. Mais déjà, alors, contre l'Atlético de Madrid, ils sont passés au tir au but, en Ligue des Champions. Donc
jusqu'à présent,
c'est sur un fil, hein, toujours. C'est des funambules, les Madrilènes.
Sauf quand t'es tombé contre Barcelone en championnat, où t'as quand même ramassé ses verres.
Et ben oui, et en super Coupe d'Europe, enfin, d'Espagne et tout ça. Bon, Camavinga, on va peut-être l'excuser parce qu'il n'était pas à son poste. Alors, je crois que ça c'est assez.
Non, il joue souvent quand même à arrière-gauche.
Il l'a fait la dernière fois où il l'a fait comme ça. C'était contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions quand il avait joué latéral gauche et bon ils avaient pris un bouillon parce que c'était pas le City.
Il y a une petite période où il a enchaîné plusieurs matchs au poste de latéral gauche. Il peut être bon aussi à ce poste-là.
En tout cas, hier il était pas dans un bon soir.
C'est bizarre que Franck Garcia soit pas préféré. Je trouve meilleur moi arrière gauche.
Mais hier on s'est bien rendu compte qu'il y avait pas d'équipe B non plus parce que tant le gardien que certains joueurs c'était vraiment très.
Hendrick, c'est un vrai plan.
C'est ça qui est intéressant.
Hendrick, voilà. Attention, c'est justement, je voulais parler de lui, Dominique. 18 ans, 6e but en Coupe du Roi. Quand il rentre ou quand il commence, en tout cas, très souvent, c'est un joueur qui finit par marquer. Et ça, c'est intéressant.
Mais moi, je pense qu'il a choisi le mauvais club pour aller en Europe parce que c'est un club où les stars ne veulent pas sortir.
Non, mais il est en post-formation, là.
Non, moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai vu qu'ils ont fait exactement la même chose avec Vinicius. Ils ont fait la même chose avec Rodrigo. Aujourd'hui, ils sont à un immense niveau mondial. Ils seraient titulaires
partout.
Non, mais
il faut qu'il apprenne, peut-être.
Non, mais il apprend.
Avec les grandes stars, quoi.
Avec les grandes stars.
Lamine Yamal, il apprend en étant titulaire.
Ouais, non, c'est vrai qu'on peut, avoir ce raisonnement-là, il peut tenir debout, mais je l'ai vu faire au Real Madrid et j'ai eu les mêmes questions que toi en me demandant mais qu'est-ce que Vinicius va faire dans ce club-là. Il va avoir des problèmes. C'est devenu un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde. Rodrigo n'est pas très loin de ce niveau-là aussi. Donc manifestement, ça réussit cette politique-là au Real Madrid.
C'est un jeune qui est en post-formation dans le meilleur club du monde. C'est-à-dire que même quand il ne joue pas, à l'entraînement, il est avec des cracks. Et quand vous mangez, vous laissez des miettes. Lui, les miettes, il les prend, il les mange.
Oui, apparemment.
Il optimise au maximum son temps de jeu.
Il perd pas son temps, Nabil.
Il pourrait
être encore plus fort.
Regardez Arda Güler hier, la complicité avec Rodiger et le corner qu'il arrive à tirer.
Et puis, oui. Et puis, alors, il y a Güler et Diaz, eux, qui sont dans une autre situation, qui pourraient aller voir ailleurs, avoir du temps de jeu. Mais c'est pareil, vous faites un choix à un moment. Vous êtes dans un club où tu fais partie d'une escouade de 15 et tu peux gagner des titres. Tu peux aller ailleurs, être numéro 1 et gagner au
aussi.
Et gagner aucun titre, c'est aussi un choix qui est fait. Et Rudiger, on n'en parle pas assez, parce que très longtemps, le Cristiano Ronaldo de la défense, alors je ne dis pas qu'il a son niveau, c'était Ramos, mais Rudiger, en termes de personnalité et de détermination, c'est un joueur qui est exceptionnel.
Moi, je regarde
tous les matchs. Il est incroyable, surtout sur les coups de tête. On sait que ça va venir de lui et ça vient.
Moi, Annie, je regarde tous les matchs du Real. Il y en a beaucoup, et notamment dans cette Coupe du Roi, un match aller-retour, par exemple, ça c'est un peu fou en 2025 d'avoir une formule comme ça. Et Hendrick, il débute quand même très peu de matchs, quoi. Alors qu'il y a tellement de matchs.
En Coupe,
là, il y avait une trêve internationale, on aurait pu penser que.
Il arrivait du Brésil.
Mais en championnat, on peut faire reposer des joueurs, tout ça. Et Hendrick, c'est quand même toujours Vinicius, Rodrigo, Mbappé qui débutent quasiment tous les matchs.
Mais tu sais quel âge il a, le gamin, là?
Il a 18 ans.
Et alors? 18 ans, il est au Real.
Là, il a commencé.
Il a 17 ans, il joue au Barça.
Oui, Lamine Yamal, on parle d'un autre profil.
Bah non, mais je sais pas. Zaïre Emery, il avait 16 ans, il joue au PSG. Quand t'es fort, t'es fort.
Attendez, mais tu peux pas.
Quand t'es fort, tu joues avec les clubs.
Tu sais, dans le football, il y a 11 titulaires. Tout le monde peut pas jouer.
Mais je vous dis simplement. Je vous dis simplement que ce gars-là, vous seriez là toutes les semaines à faire des débats en vous demandant s'il est pas Ballon d'Or, c'est pas le meilleur joueur du monde. S'il était titulaire.
Peut-être pas là non plus, quand même.
Bah non, mais parce que s'il jouait tous les matchs, vous verriez que c'est un crack absolu, quoi.
Dominique, moi, je retiens que Dominique regarde tous les matchs du Real Madrid, comme David Finzel, ça c'est un secret. Alors, en tout cas, on saura ce soir, cette 41e finale, on saura ce soir contre qui jouera, ça sera à Séville prochainement, le Real Madrid, ça sera où ? Alors, hein, on se retrouve, comme on se retrouve, pourrait-on dire, puisque la finale sera aussi à Madrid ce soir, finale retour, demi-finale retour, Atlético Madrid, FC Barcelone, au Metropolitano.
C'est excitant,
un match aller qui était incroyable.
Les gros clubs espagnols ne négligent jamais, jamais la Coupe d'Espagne. Et quand vous regardez donc l'histoire de cette compétition, bah, vous l'avez dit, ce sont toujours eux qui sont au bout. Et bon, bah, une finale, même si on envoie des Real Barça, une finale de Coupe du Roi Real Barça, on a quand même envie
de l'avoir. C'est un autre format, il n'y a pas les clubs.
Match à élimination directe, les confrontations.
Le nombre de participants
comme ça,
n'est pas le même qu'en Coupe de France. Ouais. Et
c'est
ça
très,
rien à voir.
C'est très impressionnant. Allez, on continue parce qu'il y avait aussi, non pas Copa del Rey, mais il y avait la Coupe de France, tout simplement.
Dunkerque, cinquième de Ligue 2, a marqué contre l'une des meilleures équipes d'Europe du moment face au Paris Saint-Germain. 2-0 pour Dunkerque. C'est la sensation! Ousmane Dembélé, quelle action! Et l'égalisation
c'est
du capitaine Marquinhos! Les Parisiens récompensés de leur domination, ça fait 3 buts à 2. Dembélé qui s'échappe va se retrouver face à Ewen Jawen. C'est plié cette affaire-là! Paris file en finale de la Coupe de France. Paris se qualifie pour sa 21e finale de la Coupe de France. C'est désormais 4 buts à 2.
Et une demi-finale sans doute plus compliquée que ne l'avait imaginé le Paris Saint-Germain accueilli à Lille hein, par ce club de Dunkerque. Les Parisiens invaincus en Ligue 1 et ils avaient face à eux la cinquième équipe de Ligue 2. D'ailleurs, ce sont eux qui menaient 2-0 pratiquement jusqu'à la mi-temps. Dunkerque, une fin un peu brutale quand même d'une incroyable épopée parce qu'on va d'abord parler des perdants. Tiens, on va changer un peu, mais pleine d'ambition cette équipe. On a parlé dans l'équipe, vous avez parlé du propriétaire turc riche industriel. Hein, il est à la tête d'un autre club
c'est
en Turquie qui s'appelle
Samsung Sport.
Voilà, qui est troisième actuellement
tout
derrière Galatasaray et Fenerbahçe. Et hier, il était au stade Pierre Mauroy. Il vient assez rarement apparemment voir cette équipe. En tout cas, les Maritimes de Dunkerque, avec des joueurs qui ont quand même montré du caractère, du talent, qui ont tenu. Hein, et alors, un clin d'œil au directeur sportif, parce que c'est l'international sénégalais, ancien de Chelsea. Dembaba. Hier soir, ils se sont sentis victimes d'injustice, Dominique. D'injustice à cause d'une erreur d'arbitrage. Est-ce que c'est à raison ? On est logique, à 2-1. Juste à la mi-temps, le Paris Saint-Germain marque un but et en début de deuxième mi-temps, il marque sur corner. En fait, il n'y aurait pas dû y avoir corner apparemment.
Bah, c'est Marquinhos qui touche le ballon au dernier, donc c'est une sortie de but. Et la conséquence de cette erreur d'arbitrage, elle est énorme, puisque sur le corner, il y a but de Marquinhos. Et ils avaient encaissé un but juste avant la pause, et ils en prennent un juste après le retour des vestiaires. Mmh. Donc là, ce 2-2-là, déjà, dès le but de Dembélé, le 2-1 avant la pause, on se dit,
on sent le vent tourner.
On se dit, c'est Dunkerque qui a fait son truc pendant 40 minutes, c'était sympa. Mais là, ça va être difficile, quoi. Mais bon, pourquoi pas une prolongation, sur un malentendu. Là, au 2-2,
Moi, je veux bien, mais alors faire de l'histoire de ce match, ce corner qui n'en était pas un et qui a permis au Paris Saint-Germain donc, de sauver sa peau dans la compétition.
C'est quoi ? C'est pour se consoler un peu ?
Oui, non, mais je veux dire, l'histoire de Dunkerque, elle est formidable. Mais
entièrement d'accord.
Le Paris Saint-Germain avait enclenché la marche avant, ils avaient 83% de possession. On n'a quand même pas de grand doute sur le fait qu'ils allaient finir par revenir dans ce match et prendre l'avantage. Mais cette équipe de Dunkerque, elle est capable de faire des choses formidables.
Et bien justement, on va l'entendre, l'entraîneur de ces hommes de Dunkerque, le Portugais Luis Castro, qui justement revient sur le scénario. Et le scénario débute, et vous avez raison, messieurs, on sentait que le vent avait tourné.
On jouait contre Paris Saint-Germain. La dernière fois qu'ils ont perdu à l'extérieur en France, c'est 2023 février. Je ne regarde pas beaucoup d'équipes cette saison qui criaient d'occasion comme on criait. A gagné 2-0 contre lui, je ne regarde pas beaucoup. Après, tu perds 3-2, tu prends beaucoup plus de risques. Le quatrième but, c'est normal pour une équipe qui prend plus de risques. Après, Dembélé, Barcola, Joneves, Vitinha, Luis Henrique, c'est champion du monde, champion d'Europe, beaucoup plus d'expérience que moi. et beaucoup de choses qu'ils ont que je pense qu'on fait un très bon match. Je pense qu'on fait plus de 10 frappes ce match et d'occasion très bonne aussi. Et je pense qu'ils connaissent qu'ils ont fait les choses bien. Après, c'est un sentiment de désolé parce que tu peux gagner le match.
Alors, bon, ils ont rêvé de gagner le match. Peut-être que c'était quand même compliqué. On connaît le Paris Saint-Germain. On va y venir au Paris Saint-Germain. Mais avant, Étienne, cette équipe, elle arrive du National. Elle est là en Ligue 2, pratiquement aux portes de la Ligue 1. Ils ont éliminé 3 clubs de Ligue 1 sur leur parcours. On a cherché, ils
dans
jouent...
Dans le jeu de Ligue des Champions, hein.
Oui,
c'était Lille.
Exactement. Et ils ont joué depuis le 16 novembre. Ils sont rentrés au 7e tour, les clubs de Ligue 2. Les clubs de Ligue 1 rentrent en 16e de finale. Donc, il n'y a...
32e, fin décembre.
Exactement. Donc, il n'y a que des choses positives quand même à retirer pour ces Maritimes.
Bon, franchement, c'est un parcours assez incroyable. Et c'est,
on a découvert une histoire.
Et c'est un niveau de jeu qu'ils arrivent à mettre en place qui est assez incroyable, en tout cas sur cette compétition-là. Parce que donc, contrairement à Dominique, je ne regarde pas tous les matchs de Dunkerque en Ligue 2, donc je sais que lui il le fait parce qu'il a une conscience professionnelle hors du commun.
Et l'abonnement.
Mais encore hier soir, sur la première mi-temps, Paris domine, mais finalement se crée pas beaucoup d'occasions. Est-ce que tout ce que fait Dunkerque avec le peu qu'on leur laisse et que les Parisiens leur laissent, ils ont réussi à faire des choses.
Avec la justesse.
C'est véritablement une équipe avec une grande justesse, avec une grande force physique, avec une capacité aussi à
se projeter.
Un bon
gardien.
Un
le
bon
Jaouen,
gardien,
hein.
Mais à partir du moment où Dembélé réduit l'écart comme ça avant la mi-temps, là on a le sentiment que ça va quand même
là,
être
c'est
très
un
compliqué.
Coup.
Mais on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ce soir? Paris n'est pas réveillé, on avait vu Saint-Etienne 3-4 jours avant en championnat.
C'est la question que je vous réservais,
on se dit,
Dominique.
On se dit pourquoi
ils
pas.
Aiment se faire peur, le Paris Saint-Germain.
Non, mais
c'est pas la première fois qu'ils
y a des soirs sans.
Ils ont été menés 2-0 par le Manchester City, ils ont été menés 2-0 par Saint-Etienne, donc je veux dire, c'est un peu le grand écart là entre les deux. 1-0, et puis ils ont été menés aussi, alors là c'était sur un match aller-retour, mais Liverpool aussi. Et finalement, ils aiment se faire peur.
Ben, je sais pas, mais en tout cas, je pense pas. Mais je pense que là, c'est le retour de trêve. Luis Enrique mélange les équipes pour étaler les temps de jeu. Donc,
c'était quand même quasiment l'équipe qui
c'est l'équipe
qui
bah,
bon, par Beraldo.
Ouais, voilà. Donc, mais qui va jouer parce qu'il va jouer la Ligue des Champions parce que Marquinhos est suspendu. Lui, il va jouer le match aller. Donc voilà, là c'était l'équipe type. Moi, je me suis dit, ça peut être un soir sans, ça peut arriver dans le foot. J'ai vu qu'en Allemagne, le Bayern a été éliminé.
Bayern-Leverkusen.
C'est devenu plus difficile avec le PSG parce que cette équipe, elle a extrêmement changé, évidemment, dans son niveau de jeu qui n'est plus du tout le même, mais aussi dans son état d'esprit.
Exactement.
Ils sont extrêmement sérieux.
Ils ne baissent plus la tête, même en étant menés.
Ils sont extrêmement sérieux. On sent bien qu'ils ne prennent même pas à la légère un match de coupe contre une équipe de deuxième division, alors que les attend donc un quart de finale de Ligue des Champions. Donc, c'est pour ça qu'elle est très, très dure à jouer, cette équipe.
Et on va écouter Luis Enrique, l'entraîneur des Parisiens, et vous allez l'entendre en français dans le texte. Quand il gagne, il parle français.
Nous sommes très contents. On est contents parce que ce n'était pas facile. Avec les deux premiers buts qu'ils sont marqués. Mais je pense que c'est un preuve de mentalité, de caractère. L'équipe continue à profiter les moments et on est une autre fois en une autre finale. Ce sera important parce qu'on va jouer à l'Stade de France. C'est nouveau pour nous parce que l'année dernière, on n'est pas joué là et on doit. Attends quelle est l'équipe contre qui va jouer.
Alors, ce qu'il y a de bien avec cette équipe qui ne baisse jamais la tête, et c'est ce qu'on disait, Luis Enrique, Nabil, il a plus d'une arme répondre quand il y a des incertitudes et tout, mais il y en a un qu'on peaufine à chaque match, c'est Dembélé. Hier soir, il marque encore un doublé. Il en est au 32e but de la saison, 21 en Ligue 1 et 24 seulement pour l'année 2025.
Et sans tirer les pénaltys, c'est pas assez dit souvent. Hein,
comme Benzema.
Exactement. Général. Exactement, comme souvent les grands joueurs des grandes équipes le font.
Oui, c'est sûr que c'est un peu la sidération Dembélé sur cette saison. On pouvait s'attendre à ce qu'il progresse, mais dans ces proportions-là, être aligné au final avec les meilleurs dans cet exercice-là sur les 5 grands championnats, que ce soit Mbappé, Kane, Lewandowski, en fait, il est à leur table concrètement. Et effectivement, ce changement tactique, bon, même s'il est revenu un peu à droite sur le match, le mettre face au but, finalement, c'est une réussite, même s'il y a eu quand même des interrogations en première partie de saison, mais elles étaient logiques puisque les résultats ne suivaient pas. Même si l'animation offensive procurait des occasions, mais l'efficacité n'était pas là. D'ailleurs, il était décrit à ce moment-là parce qu'il s'est aussi retrouvé dans des situations où il n'a pas fini, alors qu'on aurait espéré qu'il finisse le job.
Vous vous souvenez, en début de saison, c'était quand même on plaisantait sur ses expectatives.
Si le PSG patinait en Ligue des Champions, c'est parce qu'il ne mettait pas les occasions que Paris avait.
C'est-à-dire, il y avait un nombre fou d'occasions, mais il n'y avait jamais de...
C'était surtout lui, quoi.
Donc, il est sur une séquence où il est sur une confiance incroyable. Donc, maintenant... Bah comme on dit en NBA, puisque les playoffs vont bientôt débuter, bah on arrive dans le money time, quoi.
Et c'est une bonne formule, ça, Nabil.
Ça n'a jamais été utilisé.
Je crois pas.
Et je la dépose avant que tu espères.
T'aurais pu faire parler de la théorie du ketchup.
Utiliser un jour ou l'autre, quoi.
T'aurais pu nous faire la théorie du ketchup aussi, tu sais, quand tu ça tombe, quoi. Toi, là, c'est Dembélé, c'est ça. Quoi.
Non, je l'ai faite pour Algérie-Mozambique. Sinon. On a gagné 5 ans. Quand c'est tombé, c'est tombé.
Est-ce que dans ce nouveau Paris Saint-Germain qui va donc disputer encore une fois une finale de Coupe de France, alors on avait presque envie d'être en faveur de Dunkerque juste pour rompre un peu. On sait que le Paris Saint-Germain va donc disputer la finale. Alors ce sera contre Reims ou contre Cannes. Et je sais pas si vous faites.
Mais non, mais ils sont
sur la comète.
Si c'est contre Cannes, attention au festival.
Hein. Excellent. Ils sont invaincus contre une équipe française cette saison et ils sont invaincus à l'extérieur sous Luis Enrique depuis qu'il est arrivé en juillet 2023. Donc le suspense, il est pas foufou. Voilà, on sait que Paris va gagner, mais on ne sait pas comment.
Le suspense des compétitions.
Ah oui, je peux déjà vous annoncer, Annick, cette Coupe de France contre Cannes ou Reims, ils vont la gagner. Même s'ils n'ont pas battu Reims cette saison, ni à Reims, ni au Parc.
Attention à Reims qui sort d'une performance XXL contre le grand Olympique de Marseille.
La finale, c'est pas la semaine prochaine.
Préfère prévenir parce que je vois qu'il y a beaucoup de confiance.
En tout cas,
ils sont pas encore au Stade de France, Reims. Hein.
C'est quand même une équipe à réaction. J'imagine que Emiliano Martinez sera l'épouvantail du match de Ligue des Champions.
On a que le moyen a été prêté, donc ça va.
Gardien.
C'était lui le cauchemar. Mais
Emiliano Martinez, l'Argentin, champion du monde et gardien d'Aston Villa.
Oui, mais je ne suis pas complètement d'accord. Évidemment, c'était le scénario, mais bon, assez incroyable du match d'hier. Mais c'est moins, je trouve, aujourd'hui une équipe à réaction, le Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui met son jeu en place, qui joue toujours à peu près pareil.
Elle met du temps quand même à le mettre en place. Parfois, c'est pas dès le début du match.
Parfois, mais enfin...
derniers matchs, elle est moins bien.
Il y a quand même une forme de régularité depuis aujourd'hui plusieurs mois où il y a un niveau de possession qui est extrêmement élevé. Il y a des combinaisons, il se passe des choses. Il y a un sérieux, on l'a dit... au niveau du jeu, de l'implication, tout le monde fait le job, on vient défendre, etc. Donc c'est en ça que c'est une équipe qui parfois peut être menée au score et avoir à réagir, mais j'ai l'impression que dès le début du match, en fait, elle ne se pose pas de questions, elle met son jeu en place, elle se met en branle, que ce soit Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France, n'importe quelle compétition, en fait, on sait comment Paris va jouer et en général, ça marche.
Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle a par rapport aux autres saisons, elle a un environnement plus pacifié. Et un autre truc que j'ai noté, elle est pas embêtée ou très peu par les blessures de joueurs.
Quasi pas du tout.
Et ce qui est quand même, finalement, tout s'aligne, quoi. Ce qui n'est pas le cas d'autres grosses équipes.
Oui, il n'y a que quand
on parlait du Real tout à l'heure, là.
Qui s'est blessé avec la Corée du Sud, mais sinon tout le monde est sur le pont. Ils vont être mathématiquement champion de France samedi en recevant Angers.
Fassent un nul quand même. C'est pas gagné encore.
A priori, c'est pas gagné. Un nul, ça suffit. Donc,
fais gaffe à Leupold.
Ils vont être en finale de la Coupe de France, ils vont être champions samedi mathématiquement, ils vont aborder Aston Villa dans les meilleures conditions, sans blesser, comme l'a inhabile avec leur jeu en place.
On espère qu'il n'y ait pas de
blessé. Non, mais après, Aston Villa peut être plus fort sur deux matchs. Mais
Aston Villa,
ils arrivent.
Ce serait aujourd'hui une déception de se faire éliminer par Aston Villa eu égard à ce qu'ils ont fait.
Souvenez-vous, l'année dernière, c'était contre le Borussia Dortmund.
C'est vrai, mais je trouve que Borussia Dortmund, par rapport à Aston Villa, c'est quand même une équipe qui a des références en Europe. Plus importante
un peu plus.
Sur les 10 dernières années, quoi.
C'est vrai.
Mais moi, je pense que
c'est l'équipe qui a déjà été en finale de la Ligue des Champions.
Moi, je pense que l'Aston Villa de cette année est plus fort que le Dortmund de la saison dernière.
Oui, mais ça,
mais David a raison, ce serait aujourd'hui une immense déception pour le Paris Saint-Germain. Autant quand la saison a démarré, il n'y avait rien ou pas grand-chose et beaucoup de critiques. Aujourd'hui, même au niveau européen, quand vous regardez la presse internationale, tout le monde parle du Paris Saint-Germain. Tout le monde quasiment fait en favori pour la Ligue des Champions. Si vous êtes éliminé par Aston Villa, et malgré toutes les victoires, les séries incroyables,
cette demi-finale
contre
Arsenal ou le Real Madrid.
Le Real, ce serait plus sympa, avec Mbappé en face.
Ah bon, il joue. Ah d'accord.
Tu connais ce joueur, Mbappé?
Bien sûr,
là.
Bien sûr.
Tu sais quoi, il n'y a pas intérêt qu'il y ait Beraldo en face de lui, parce qu'à mon avis, il va aller chez l'ostéo tout de suite après le match.
Il regarde tous les matchs. On saura ce soir pour le Paris Saint-Germain qui sera donc son adversaire en finale. Avant de passer à ce possible, ou en tout cas on aimerait l'imaginer, derby parisien qui pourrait exister prochainement dans la capitale. Eh bien, quelques notes de musique avec la chanteuse anglaise Green Tipeng, le titre de la chanson tout simplement Green, et on fait un clin d'œil à Archiduc Théodore, un auditeur de N'Djamena, surnommé le buveur de thé vert.
That's how it's our business. One shed then one skin. Feel it all around and let you enter within. There's no resisting. You may as well give in and give over. Stop waiting for clovers and miracles. Ain't no one delivering except from you. The growth so far has been exceptional. But still there's a lot to do, a lot to face, a lot to learn, a lot to change, a lot to take from it all. I know you want to run, I know you do. Yeah. But there's no other way to stray through. Yeah. Oh, in this life a lot of suffering. Yeah. But in the end that's why I shaped you. Burn all of the talk and need not tell no friend. You receive the lessons, time to put in action. You receive the blessings, time to self-sanction. In a spiritual fashion, your mind is your weapon. Your hell and your heaven, you must come together. You, for worse, for better, must return to center. You can't run away from it, no matter where you go. You've got versions of yourself that simply demand more. Waiting in the sidelines, hear them knocking at your door. Yeah. I know you want to run, I know you do. But there's no other way than straight through. Yeah. Oh, in this life a lot of suffering.
Extrait donc du dernier album de Green Tipeng, Tell Them It's Sunny. Et c'est sur la playlist de RFI.
Playlist.
À Paris, nous sommes différents et fiers de l'être.
Ouais, Maxime Lopez pour Pierre-Yves Abel. Et le but au Paris FC.
Le club des Parisiens, par les Parisiens, pour les Parisiens.
Et c'est terminé, victoire du Paris FC.
Paris FC, certifié Paris.
On les attend depuis longtemps, même depuis très longtemps, des Parisiens, d'autres Parisiens sous d'autres couleurs que celles du Paris Saint-Germain, pour créer, inventer une rivalité dans le championnat de France, dans la capitale aussi. Le Paris FC porte depuis un certain temps les espoirs de cette possible rivalité. Et le Paris FC, avec sa victoire à la 28e journée sur Caen, alors le stade Malherbe qui va si mal, 4-2, eh bien il recolle aux deux concurrents placés devant lui, le FC Metz et le FC Lorient. Ils sont donc troisième sur le podium, les joueurs du Paris FC. Une victoire obtenue notamment grâce au doublé de l'international ivoirien Jean-Philippe Crasso, très motivé par le projet et ses perspectives.
Projet en lui-même, déjà, pour moi, c'est un projet qui m'a intéressé et que, auquel j'ai envie de participer. Maintenant, on connaît le foot, c'est jamais donné d'avance, mais on va tout faire pour réaliser ce projet. Et si on le réalise, ça va être super. Les joueurs, bon, je les connais, certains plus que d'autres. Après, voilà, essayer d'apporter ma joie de vivre. J'aime bien rigoler, j'aime bien m'amuser. Et après, faire ce dont pourquoi on m'a recruté ici, donc c'est-à-dire marquer des buts et faire des passes-dés. Et j'espère qu'on pourra célébrer ça tous ensemble.
Nabil Djellit, ouais. Alors Jean-Philippe Crasso, il a déjà 15 buts au compteur. C'est une équipe qui a été formée, elle aussi, on parlait de Dunkerque tout à l'heure, c'est une équipe clairement formée dans l'objectif de monter, d'autant qu'un nouvel investisseur est arrivé en cours de saison. Et le projet du Paris FC, on a Maxime Lopez, ancien de Marseille, avec son frère d'ailleurs. On a des joueurs quand même qui ont déjà joué en Ligue 1. Est-ce que pour vous, ce Paris FC est capable d'assurer la montée?
Bah, il va falloir batailler avec Lorient et Metz, qui sont aussi des clients. Metz qui est habitué à faire
Metz est à un point devant.
Ouais, qui est habitué à faire l'ascenseur, mais qui travaille bien cette saison. Et puis Lorient qui a conservé des joueurs. Même
alors rappelons-le, Ligue 2, y a les deux premiers montent directement, ouais, ensuite, puis après il y aura beaucoup de barrages.
Ensuite, troisième, ça vous donne... quand vous finissez troisième, vous devez attendre que le quatrième et le cinquième de Ligue 2 fassent un match départagé. Et le vainqueur vous affronte. Et quand vous vous retrouvez face à ce vainqueur-là, si vous arrivez à le vaincre... Et s'il arrive à vous vaincre, en tout cas, il joue contre le barragiste de Ligue 1 en aller-retour. Donc, c'est vrai que c'est un parcours du combattant. Alors, pour en revenir au Paris FC, moi, j'ai eu la chance de croiser Crasso cette saison en début de saison. C'est un joueur qui est surdimensionné pour son club, pour la Ligue 2. C'est un attaquant de Ligue 1. C'est un joueur qui arrive de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et qui était là-bas en rupture de banc et qui pourrait facilement évoluer déjà dans l'élite. Mais il y a aussi d'autres joueurs effectivement extrêmement intéressants. Il y a de l'expérience avec Kolo Kjedjak en défense. Il y a Kebal, parler de Maxime Lopez, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, mais aussi le jeune Kebal qui est un joueur qui est assez doué. Ils avaient déjà investi quand même, parce que pour faire signer ces joueurs-là, ils sont pas venus pour pas grand-chose. Donc ils avaient déjà investi sérieusement. Alors est-ce qu'il y avait déjà Anguille Souroche et ils savaient que
de toute façon le club soit à La Roche. Non.
Anguissa Souroche, c'est à Marseille, mais ça c'était à une autre époque. Voilà, ça s'est fait tout simplement. Mais oui, et on attend la suite. Au moment où la Ligue 1 effectivement est un peu dépréciée, on a besoin de clubs ambitieux, et le Paris FC, s'il venait à monter, ça serait hyper intéressant, d'autant que ils achètent en quelque sorte aussi le logiciel du groupe Red Bull via Klopp.
On va en parler.
Mais ça c'est un autre sujet.
Mais tu connais le projet, toi? Moi je connais pas. Hein.
Bah en tout cas, c'est ce qui est vendu.
Le projet pour l'instant, on imagine
qu'il va être... flou.
Oui, non, mais on imagine qu'il sera construit autour d'une montée. J'imagine que l'objectif principal de la saison, c'est-à-dire déjà on monte et après
c'était déjà l'objectif quand il n'y avait que Pierre Ferracci et il n'y avait pas encore la famille Arnaud qui avait rejoint le projet. Mais moi, ce que je trouve surtout, c'est que aujourd'hui, le Paris FC, il est dans l'obligation de monter cette saison.
Et ils ont eu un très mauvais passage
imaginez,
là, en championnat.
Imaginez la communication autour du club si le Paris FC, donc avec la famille Arnaud comme actionnaire, des plus grandes fortunes mondiales, ne montent pas en Ligue 1.
Ils sont arrivés vers Noël, pas eux qui ont fait l'équipe.
Malgré tout, on s'attend aujourd'hui à ce que cette équipe elle monte dès cette saison en Ligue 1. Et puis, Nabil décrivait l'effectif. L'effectif, il est pas mal, mais il n'est pas au-dessus, très largement au-dessus de ce qui se fait en Ligue 2. Donc, monter, ce n'est pas forcément une certitude. Moi, j'attendais, et peut-être ça aurait été plus efficace de la famille Arnaud, que c'était plus simple, de mon point de vue, d'investir très vite quand ils sont arrivés
de renforcer
l'équipe très vite pour avoir la quasi-garantie de monter en Ligue 1. Ce qu'avait fait, par exemple, Jean-Luc Lagardère avec le Matra Racing, il avait une équipe de Ligue 2 qui était une équipe de Ligue 1, quasiment déjà une équipe européenne. Ils sont montés très vite. Derrière, ça a été plus compliqué. Mais là, la famille Arnaud, si le PFC ne monte pas, ce sera compliqué pour
Dominique,
eux.
Dominique, vous regardez aussi la Ligue 2, j'imagine.
Il regarde surtout les équipes de la famille Arnaud.
Bah, exactement. C'est mon actionnaire.
Hein. Exactement. Il est le propriétaire de votre journal. Dominique, il reste 6 matchs. Ils sont à un point de Metz. Est-ce que pour vous, c'est faisable de terminer deuxième?
Oui, mais...
Lorient s'est un peu échappé.
Ouais, mais alors après... Au début, quand on parlait du Real, Étienne disait « je vais renforcer les portes ouvertes », mais Lorient et Metz, ils ont plus l'habitude de jouer ça, quoi. C'est des clubs qui
ils jouent le yo-yo, d'ailleurs, malheureusement.
PFC, c'est peut-être un peu nouveau pour eux. Alors, est-ce qu'avec leurs joueurs un peu au-dessus, surdimensionnés, comme Crasso, va leur permettre de batailler jusqu'au bout?
Vous avez des doutes?
Je vois que quand ils gagnent, c'est quand même des victoires pénibles. C'est par un but d'écart.
Ouais, là, c'était ils 4 ont... à 2, mais c'était contre Caen, qui est dernier.
Oui, Caen, de toute façon, c'est fini. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que la communication d'arriver au milieu de saison comme ça était pas bonne. Je comprends pas le projet de la famille Arnaud. C'est pas très clair. Le gars dit, moi, je suis supporter du PSG. Ah bon, alors, pourquoi, si t'es supporter du PSG, tu viens au PFC? Donc, moi, je vous dirais non. non, en fait. Il faut se mouiller, je dirais non. Et Lorient vont prendre une option.
Alors, quel projet, justement, pour ce club? Et c'est vrai qu'ils sont aussi, ils se sont rapprochés de Red Bull. Et Red Bull, eh bien, sur le directeur sportif maintenant, ça veut dire Jürgen Klopp. Alors, Jürgen Klopp est venu voir un match.
Oui.
C'était au stade Charletti. Alors, Charletti, pour nous tous, c'est le stade universitaire, d'ailleurs, depuis 1939. Hein, le club résident, c'est le Paris Universitaire Club. Donc, c'est un club, c'est un stade fait pour les amateurs et tout, mais qui héberge le Paris FC. Et alors, le stade Charletti ne lui a pas du tout plu. Écoutons ses impressions, lui qui a quand même eu l'habitude pendant 9 ans des stades anglais, de son appréciation après un match au stade Charletti. The stadium.
Vous ne pouvez pas créer une vraie ambiance au stade Charletti. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un match d'aussi loin d'ailleurs. Et pourtant, j'étais au stade, pas devant la télévision. C'était, comment dire, pas terrible. Il y a des changements en vue à effectuer. Le camp d'entraînement me rappelle celui de mon premier club il y a 20 ans. Ils ont fait des choses pour l'améliorer. Mais c'est pas ça. C'est un début, disons-le ainsi. Ils font au mieux, mais il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. C'est sûr qu'on va aider, avec la famille Arnaud, Antoine en premier lieu. On verra, mais il y a encore du chemin.
Alors d'ailleurs, ils ont déjà fait un choix, parce que là, ce stade de 20 000 places, qui a une architecture assez particulière et tout, bon, je ne sais pas s'ils vont faire un bras de fer avec la mairie de Paris qui est propriétaire, comme le font les Qatariens avec le Parc des Princes. Mais Dominique, ils ont déjà choisi, vous parliez du Paris Saint-Germain, ils vont jouer à l'ombre du Paris Saint-Germain, il y a le grand Parc des Princes, et à côté, il y a le stade du Racing de rugby, mais qui peut aussi abriter des matchs de foot.
Qui a été bien refait,
oui, récemment.
De toute façon, moi, je n'ai pas leur conseil à leur donner, hein. Ils ont de l'argent. J'espère qu'ils ont des compétences, mais c'est un peu de se construire en miroir du Paris Saint-Germain, qui est une offre alternative à ce que propose le PSG. PSG, là, sportivement, ils sont sur un projet de jeunes, mais grosso modo, on sait depuis 15 ans que c'est de l'argent, c'est des stars, c'est des paillettes. Voilà, c'est ça, donc il faut faire un peu autre chose.
Ah bon, moi j'ai le sentiment que voilà, si on attend quelque chose, un projet donc à Paris, un deuxième projet à Paris, on n'attend pas un projet pour jouer la 15e place de Ligue 1. Et puis,
tu peux faire autrement, mais pas pour jouer la 15e.
Bah, et quand, en tout cas, dans l'esprit du public, peut-être que je suis un petit peu terre à terre et je ne vois pas très loin, mais quand vous avez la fortune de Bernard Arnault, que vous montez un projet pour être en Ligue 1 avec un nouveau club parisien, bah, intuitivement, tu te dis bah, c'est pour aller essayer de rivaliser, en tout cas en tête de... En tête du championnat, pas pour faire un.
On a l'exemple de la famille Pinault qui, à Rennes, n'a pas choisi le Star System. Bon, alors, les paillettes, à Rennes,
ils ont déjà
c'est
quand même
pareil.
Un club, même s'ils réussissent pas toujours très bien, ils ont quand même un club à vocation européenne. C'est déjà ça. Non, mais... Et puis, ils ne sont pas supporters, ils ne sont pas dit supporters de Brest ou de.
La question, est-ce qu'on aura un deuxième club à Paris dont on rêve depuis si longtemps, dont on parle depuis si longtemps, dans la capitale, ou pas vraiment encore, c'est pas encore prêt?
Bah, on va le savoir. En tout cas, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un d'aussi puissant depuis très longtemps prendre, investir. Alors, il y a eu des investisseurs au Red Star, mais c'était un peu d'un autre calibre. Mais bon, on doit remonter aux années 80, si je ne dis pas de bêtises, Dominique. Avec le Matra Racing, effectivement. En fait, il y a deux questions. Soit, moi, ce que je comprends, soit à un moment, il va dire, bon, c'est trop long, ça prend trop de temps. Il va s'énerver, parce que financièrement, il peut s'énerver. Et puis, il va envoyer quelques stars et puis il va monter une équipe. Soit, ils partent sur ce qu'ils sont en train de nous vendre. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en gros, faire un Leipzig face au Bayern. Mais ça, c'est un temps long, c'est-à-dire avoir quand même identifié le bassin parisien comme un fournisseur officiel de talent, récupérer la méthode et le logiciel Leipzig, c'est-à-dire en gros des jeunes, des compétences, une méthode, une manière de travailler sur l'aérobic, du gegenpressing, des choses comme ça. Mais ça demande un
et
peu de temps.
Les jeunes talentueux.
Non, mais c'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça qui a été vendu. Hein. Et si tu fais venir Klopp.
Si vous parlez du RB Leipzig, c'est parce que c'est un des clubs de la satellite de Red
Salzburg.
Bull.
En fait, en gros, là, il y a Salzburg, des fois, ils viennent piocher chez nous. D'ailleurs, Upamecano, par exemple, il est venu de France, alors pas du bassin parisien, mais plutôt de Valenciennes. Bah, d'ailleurs, Upamecano, au lieu d'aller à Salzburg, bah, il ira au PFC. Quoi.
Bon, donc,
non, mais je crois que c'est ça qu'ils veulent faire, a priori.
C'est
ce temps long là qu'ils ont choisi, visiblement.
Mais c'est un temps long, ça. Ça, c'est un temps long, c'est pas...
Bah oui, qui commence par les fondations, parce qu'effectivement, le centre d'entraînement est nul. Un club de foot, c'est...
Ça va pas être le Paris FC, ça va être le Pépite FC.
Eh bien, nous verrons. Et nous terminons sur ce mot pépite, Nabil Djellit. Merci à tous, merci messieurs, et à demain.